Donc nous sommes toujours restés à l'époque du bronze récent et on va voir maintenant un certain nombre de sites de cette période qui sont tout à fait caractéristiques. Le premier, le plus important des sites du bronze récent, c'est Hatzor. Hatzor en Haute-Galilée. Hatzor qui a été fouillé par le professeur Yadin en son temps, qui a été l'objet de fouilles récentes également. Et qui, donc, comme nous le dit la Bible, est un des sites essentiels, puisque à l'époque précédente, c'est-à-dire à l'époque Hyksos, il était la capitale de tous ces royaumes, comme le dit justement le livre de Josué. Nous avons vu que, effectivement, à l'époque précédente, le site de Hatzor était un site extrêmement, extrêmement important, et que c'était là qu'on trouvait un des remparts de terre pisée les plus importants et les plus caractéristiques qui soient, et donc avec ce que les premiers fouilleurs ont appelé un camp. Un camp, c'est-à-dire finalement un endroit qui n'était pas, comme vous allez voir, justement, on va parler de ce problème du camp. Bon. Alors, si vous voulez, comment se présente Hatzor à l'époque du bronze récent? Bon, si on prend ici par exemple le sol vierge, on va avoir ici donc l'autel de l'époque du bronze ancien, avec les sous-couches qui le caractérisent. Bon, ensuite, on a le site du bronze moyen, à peu près comme ça. Alors ici, on a l'apparition pour la première fois du fameux camp, avec ici le rempart en terre pisée. Alors là, c'est la même chose, nous avons ici plusieurs sous-couches. Et puis ensuite, nous avons le site du bronze récent. Et là, nous allons avoir trois sous-couches. Et alors, ici, nous allons avoir finalement la couche qu'on appelle ici 13, 14 et 15. Voilà. 13, 14, 15. 15 ici. Voilà. Bon. Maintenant, ici, nous allons avoir une autre nomenclature, puisque justement ici, nous avons en principe un autre site. Et là, on va appeler cette couche-là, on va l'appeler tout simplement 1A, 1B et 1C. Donc, en principe, d'après les premiers fouilleurs, nous avons ici donc l'autel, la ville, et ici un camp pour les chevaux, puisque donc on a vu que les Rixos étaient les premiers qui avaient introduit le cheval dans le pays d'Israël. En fait, Yadin a montré qu'il y avait correspondance entre la couche 13 et la couche 1A du camp, la couche 14 et la couche 1B du camp, et la couche 15 et la couche 1C. Finalement, c'est un même ensemble, c'est une même structure. Bon. Maintenant, ce qu'on trouve justement au point de vue poterie dans ces différentes couches, la couche 13, on trouve de la poterie bichrome. Bon. Et là, donc, on peut dater cette couche de ce qu'on appelle le bronze récent 3. C'est-à-dire justement l'époque ramsésite. Bien. La couche 14, on trouve essentiellement de la Mycénienne 3 et puis de la Bessouine. Donc ici, on est à l'époque aussi du bronze récent 2, c'est-à-dire à l'époque amarnienne. Et enfin, la couche 15, on trouve de la poterie Tchokolektouer. Donc ici, on est au bronze récent 1. C'est-à-dire ici, on a toute la période du bronze récent qui est représentée justement par ces trois couches. Bien. Disons aussi qu'à la base ici de notre rempart, nous trouvons une fosse qui date de l'époque des Hyksos et qui permettait justement d'empêcher aussi l'accès à la muraille par un fossé. Ce qui est très intéressant, c'est que donc justement, quand on fait ici les fouilles, je vois un petit peu au hasard, puisque finalement le professeur Yadin a pris le hasard, dans ce qu'on appelle le camp, à trois endroits différents, il a trouvé trois complexes cultuels, donc trois temples, si vous voulez. À côté de ces temples, des bâtiments publics relativement importants, mais qui ne sont pas des temples. Par conséquent, on a mis en question l'interprétation de ses prédécesseurs. S'agit-il bien d'un camp, ou bien au contraire d'une expansion de la ville? Pour une bonne et simple raison, c'est que, vu l'accroissement de la population, le tel est trop petit pour pouvoir abriter justement toute cette population, et par conséquent, il a fallu descendre du tel. Et pour protéger justement la nouvelle, la ville basse, si on peut dire, eh bien, on l'a entouré d'un rempart de terre cuisée. Maintenant, ce rempart de terre cuisée, si vous voulez, si on le reconstitue à l'époque qui nous intéresse, il se présente comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez, il a cette forme-là. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat d'érosion. Il y a à la fois, si vous voulez, le sommet du rempart qui est éliminé, et en même temps, si vous voulez, tout ça, ça s'effondre. Donc, au lieu d'avoir une pente beaucoup plus abrupte qu'à l'époque, il a une pente ici beaucoup plus douce. Voilà. Alors, la conclusion d'Edin, c'est qu'en fait, ce camp, entre guillemets, n'est rien d'autre qu'une expansion de la ville. Bien. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de noter que ces bâtiments qui vont être trouvés vont être utilisés sans changement dans les objets. Justement, ça veut dire que l'on a affaire, pour les trois couches, à une même civilisation. Une civilisation qui est typiquement cananéenne, puisqu'on va trouver de nombreuses petites amulettes, soit de métal, soit d'os, essentiellement de métal ou d'os, ça, d'ivoire aussi, bien sûr, qui représente la déesse de la fécondité, la fameuse Astarté biblique, qui était alors soit des amulettes qui étaient placées dans les maisons, soit éventuellement des amulettes aussi, tout particulièrement en ivoire, que les femmes portaient autour du cou. Le but étant évidemment de les rendre fécondes. D'où le nom justement de statuette de la fécondité. Bien. Alors, voyons justement maintenant les trois temples qui ont été découverts par le professeur Yadin. Le premier temple est un petit temple qui a... Je peux effacer là, vous avez écrit. Oui. Bon, on va faire avec. Alors, le petit temple, il représente comme ça. Ici, vous avez le Saint des Saints. Voilà, grosso modo. Justement, ce qui était très intéressant, c'était le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, on trouve, le professeur Aylin a trouvé un ensemble de stèles. Une stèle, c'est une pierre, si vous voulez, ça c'est vu dessus. Une stèle, si vous voulez, c'est une pierre à peu près comme ça, polie, évidemment, en basalte en général, enfin, au moins dans cette région, parce que c'est la pierre qui est la plus répandue, et qui donc fait ici un demi-cercle. C'est ce que la Bible appelle les matzivot. Comment est-ce qu'on traduit ça en français, d'ailleurs? Comment?
C'est pas un style
de chromètre. Si, c'est un peu ça, mais c'est pas... c'est des cercles de pierre, quoi. C'est des cercles de pierre, un petit peu, justement, c'est un petit peu la continuité de ces cercles-là. Ouais. Et puis alors, il avait surtout, ici au centre, alors une matzeva de ce type-là, sur laquelle vous voyez deux mains levées, comme ça, vers un croissant de lune. ce qui nous permet de conclure que ce temple était un temple dédié à une divinité lunaire. Une divinité lunaire que les Canadiens appelaient Tanit, hein, et que, dont on retrouve le culte en particulier à Carthage. Bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Au centre de ce cercle de pierre, il y avait un espèce de trône sur lequel siégeait un petit dieu de pierre, dont les mains avaient cette position, grosso modo, hein, donc qui était là, dans les mains duquel, vraisemblablement, on présentait des offrandes. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que quand le professeur Yadin a trouvé ce lieu saint, en quelque sorte, toutes les mains de ses votes avaient été renversées. Et le petit dieu avait été, lui aussi, renversé de son trône, et surtout, la tête était coupée. La tête était coupée comme par un instrument tranchant. Tout autour, n'est-ce pas, ici, il y avait des traces d'incendie. Donc le temple avait été incendié et il avait été détruit d'une manière violente. On avait volontairement profané ce temple en détruisant donc les pierres et en profanant la statue du dieu qui se trouvait à l'intérieur. Quels étaient justement ceux qui étaient susceptibles d'accomplir pareil acte? Bon, quand nous lisons le livre de Josué, nous nous rendons compte que Hatsor a été l'objet d'une campagne particulière de Josué et que à la suite de la prise de la ville a été rasée et les divinités locales ont été donc profanées. Le fait qu'il y ait des traces d'une conflagration aussi violente qui correspond à ce que nous dit la Bible et qui correspond aussi à la date de l'arrivée des Israélites dans le pays, nous conduit à conclure que l'on a de fortes chances de penser que la destruction de ce temple était en fin de compte le fait des Israélites. Toujours dans le temple de ce petit temple-là, on a retrouvé alors deux autres objets tout à fait intéressants. Le premier, un objet, une pierre sur laquelle il y avait à peu près ce symbole. Ce symbole qui est aussi un symbole lunaire dans les cultes canadiens. Ce qui nous confirme dans l'idée justement que ce temple était un temple lunaire. Autre objet qu'on a retrouvé aussi, alors deux représentations très exactement d'un foie d'animal. Vous savez que un procédé divinatoire très répandu dans l'Orient ancien depuis l'époque sumérienne, c'était la divination par l'examen des entrailles des animaux sacrifiés et notamment des foies des animaux. Et on trouve sur les deux foies que l'on a trouvées, qui sont en terre cuite, des inscriptions cunéiformes qui sont là justement des indications pour les prêtres qui sont chargés justement de donner les oracles à partir justement de l'examen des foies des animaux sacrifiés. Si le foie se présente comme ci, comme ça, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, etc. Donc, si vous voulez, c'est un code qui a été dans ce temps à la disposition des prêtres, justement, qui avaient pour charge de donner des augures à partir de l'examen de ces animaux. Bien. À quelques distances de ce petit temple, on a trouvé alors un autre temple beaucoup plus important, un grand temple cette fois-ci, le plus grand temple, qui était bâti à peu près sur le même modèle que celui-là, si ce n'est qu'il était beaucoup plus grand, et que, si vous voulez, il y avait deux tours, et donc deux énormes tours qui le flanquaient, qui le défendaient, comme ça, voilà. Et puis ensuite, on avait ici une entrée comme ça. Et alors, chose intéressante, à cette entrée-là, on a trouvé deux lions de basalte, deux lions couchés, qui étaient là, on peut dire, c'est comme montant la garde. Bon. Quelle était l'idée? L'idée, c'était que, si vous voulez, il y avait des puissances. Bon, le temple était un endroit sacré, donc il y avait l'esprit des dieux qui était révélé à l'intérieur de ce temple qui était présent. Bon, on ne sait pas évidemment si le petit temple dont on a parlé tout à l'heure était manifestement un temple lunaire. On n'a pas trouvé dans le grand temple d'objets qui permettent d'identifier à quelle divinité il était consacré. Peu importe. Toujours est-il que si vous voulez, à l'entrée des temples en général, ou des lieux sacrés, on trouvait des représentations d'animaux qui avaient pour charge de garder l'entrée du temple contre toute forme de profanation, aussi bien contre des gens qui auraient voulu entrer alors qu'ils n'avaient pas à faire, des ennemis, et puis aussi, surtout, des esprits mauvais, des esprits démoniaques. Et par conséquent, on pensait qu'à l'intérieur de ces deux lions de basalte, il y avait des esprits qui avaient pour charge de lutter contre les esprits démoniaques qui auraient voulu justement pénétrer dans le temple. Ça, c'était quelque chose qu'on trouve très répandu dans l'Orient ancien. Par exemple, les temples de Mésopotamie, les temples assyriens, seront aussi protégés en général par des sphinx ailés qui ont justement une attitude de lion aussi. Le sphinx est un motif qu'on retrouve dans l'Orient, bon, on le retrouve en Égypte, vous le savez, et beaucoup de temples égyptiens aussi sont eux-mêmes protégés par des sphinx, des allées de sphinx, c'est à Karnak qui a l'allée des sphinx. Bon, les sphinx égyptiens ont exactement la même fonction que les lions ici que nous trouvons à Hatzor. Et il en va de même du grand sphinx de Gizeh, hein, qui est là, non pas à l'entrée d'un temple, mais finalement à l'entrée des pyramides de la vallée des rois, et qui est là aussi pour veiller, en quelque sorte, sur le repos des pharaons qui sont enterrés dans les pyramides. Vous trouvez ça également chez les Cananéens. Alors, la représentation du sphinx, c'est-à-dire un animal, souvent qui a un corps de lion, qui peut avoir une tête humaine, qui a une tête humaine en général. D'ailleurs, c'est très intéressant, les sphinx égyptiens ont des têtes d'Égyptiens, et les sphinx assyriens ont des têtes assyriennes. Alors que les sphinx égyptiens sont imberbes, les sphinx assyriens ont une barbe comme avaient les Égyptiens, avec la coiffure qu'avaient les Égyptiens. Les Cananéens aussi donc, ont des représentations du sphinx. Ce qui est aussi caractéristique, c'est que ce sont des êtres qui ont des ailes, hein, en général représentés comme des ailes, sauf ici nos lions. Bon, c'est pas vraiment un sphinx ici en fait, hein, c'est un lion, enfin il a la même fonction que les sphinx. Les sphinx, vous les retrouvez également en Grèce, en Phénicie d'abord. En Phénicie, on les retrouve représentés. Ah, pardon, oui. On les retrouve représentés sur des ivoires. Par exemple, il y a un Megiddo aussi, un petit peu après cette période. On va en parler dans un instant. Les ivoires de Megiddo. Alors, ce sont des objets qui sont très finement ciselés. Et plusieurs de ces ivoires représentent des sphinx. On les retrouvera également à l'époque du fer, cette fois-ci dans les palais de Samarie, ou sous l'influence phénicienne qui sera apportée par le mariage d'Akab et d'Isabelle. Il y aura donc aussi présence d'ivoire qui, certains d'entre eux, représenteront aussi les sphinx. Autre endroit où on trouve ce type d'animal, c'est la Grèce. La Grèce, où nous trouvons alors là un animal mythologique qui est un petit peu différent du sphinx, mais qui lui ressemble aussi, c'est le centaure. Le centaure, c'est un animal qui a un corps d'homme et qui a un buste d'homme finalement et un corps de cheval. Bon, c'est un animal particulier, mais qui manifestement est inspiré du sphinx et qui a aussi pour fonction de garder. Vous savez qu'il y a aussi la légende dans la mythologie grecque. Du jardin des Hespérides, dans lequel se trouvaient des fruits qui avaient des pommes d'or. C'était un des travaux d'Hercule, si je ne m'abuse, que d'aller justement cueillir les fruits cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides. Et ils ont dû aussi affronter des espèces de sphinx qui avaient pour mission justement d'empêcher qu'on accède à ces pommes d'or et qu'on les fasse main basse sur elles. Bon, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces fameux sphinx ressemblent comme des frères aux chérubins bibliques. Chérubins dont on sait qu'ils étaient tissés d'abord sur le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, lequel était une espèce de barrière. Le voile avait fonction de barrière et par conséquent, les chérubins avaient pour mission d'empêcher l'accès au lieu très saint de ceux qui n'y avaient pas accédé un petit peu justement comme nos lions là. Et puis enfin, les sphinx étaient aussi sculptés, cette fois-ci, les chérubins étaient sculptés sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, la caporette, dans le même but de protéger justement la shrina, la présence de Dieu, qui reposait justement sur ce couvercle du tabernacle. Alors justement, en regroupant toutes ces données, on arrive à une conclusion tout à fait intéressante, à savoir que tout se passe comme si les peuples de l'Orient ancien se souvenaient d'un épisode qui remonte aux origines de l'humanité, dont on retrouve justement une forme dégradée dans la légende grecque que nous évoquions du jardin des Hespérides, à savoir qu'après la chute et l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden, Dieu a placé donc à l'entrée du jardin des chérubins qui avaient pour mission d'empêcher justement que l'homme n'accède à l'arbre de la vie. Et tout se passe comme si les peuples de l'Antiquité avaient gardé le souvenir, je dirais, visuel de ces êtres-là, bon, dont on retrouve des représentations diverses, avec des couleurs locales. Comme on a dit tout à l'heure, les sphinx égyptiens ont l'aspect d'Égyptien, les sphinx assyriens ont l'aspect d'Assyrien, les phéniciens ont l'aspect phénicien, les grecs ont aussi leur forme à eux, etc., des formes plus ou moins dégradées. Mais finalement, se souvenir de ces êtres qui avaient pour mission de garder les choses saintes, de garder l'accès à la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on en place des représentations, en général, à l'entrée des lieux saints, et notamment, justement, à l'entrée des temples, un petit peu comme le feront aussi les Israélites, mais cette fois-ci sur l'ordre de Dieu. Bien, maintenant, chose intéressante aussi, à l'intérieur du lieu très saint, du grand temple, du grand temple de Hatsor, cette fois-ci, on trouve une table de pierre qui était une table sur laquelle on offrait des sacrifices, pas vraiment un autel, mais sur laquelle on amenait le sang des sacrifices. Et là, comme dans le petit temple, cette table sainte, table comme il y en avait d'ailleurs aussi dans le lieu saint du temple de Jérusalem, cette table-là a été renversée volontairement, c'est-à-dire volontairement profanée. Et finalement, ce temple, ce grand temple, porte les traces à la fois de la même profanation que ceux que l'on a trouvés dans le grand temple, dans le petit temple, je veux dire, et aussi des traces d'incendie et de destruction violente, exactement comme ceux que l'on a trouvés dans le petit temple précédent. C'est très intéressant de noter que la table en question avait aussi un support qui lui aussi a été brisé, qui a été renversé. Enfin, on trouve un second temple aussi à Hatsor, un troisième temple, ça c'est le deuxième, qui alors lui, par sa taille, est intermédiaire entre les deux temples précédents, qui ne possède pas de lieu saint apparemment, mais qui est un peu bâti sur le même plan que les autres et qui a aussi alors des tours moins importantes que celui-là et puis pas d'entrée ici comme ça, ou du moins l'entrée, peut-être qu'on pourrait la mettre en évidence, mais enfin disons qu'on n'a pas poussé les fouilles assez loin pour pouvoir le faire toujours pour l'heure. Celui-là a été aussi profané et aussi porte des traces d'une destruction violente, d'incendie. Par conséquent, nous voyons ici que les Israélites, quand ils sont entrés dans le pays promis, ont mené l'ordre de Dieu à la lettre, qui était justement de détruire notamment les temples des idoles, de les profaner, de les incendier, de ne laisser absolument pas les idoles des Cananéens subsister. Ça a été parfaitement réalisé en ce qui concerne Hatsor. Bien sûr, des archéologues modernes et nouveaux archéologues tels que Finkenstein ont mis en doute le fait que ces destructions soient l'œuvre des Israélites. La raison, le motif essentiel qu'ils invoquent est que les fortifications de Hatsor étaient trop importantes pour qu'un peuple aussi primitif, en quelque sorte, que ne l'était le peuple d'Israël, puisse en venir à bout. Si Hatsor, à l'époque du bronze récent, avait connu un certain déclin à tous égards, et notamment sur le plan démographique, ça veut dire que si on estime que la ville de Hatsor avec le camp, donc la fois l'hôtel et le camp, faisait à peu près à l'époque Chrysos, pouvait permettre d'abriter une population d'environ 40 000 personnes, ce qui est évidemment considérable pour l'époque, À l'époque ici du bronze récent, c'est-à-dire à l'époque de Josué, la population était vraisemblablement tombée de moitié. Ça veut dire qu'il n'y avait plus que 20 000 habitants à Hatzor. Bon, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup pour l'époque. Hein. Et donc Finkenstein et les nouveaux archéologues pensent que c'était hors de question pour les Israélites de prendre une ville aussi puissamment fortifiée et aussi importante que celle-là. Et il ajoute, il a la naïveté, si j'ose dire, d'ajouter ceci, il aurait alors fallu un miracle. Bon, ben justement, c'est exactement ce qui s'est produit. Hein, c'est exactement ce que la Bible nous dit. Effectivement, miracle, il y a eu cet épisode où les grandes pierres sont tombées du ciel, etc., pour écraser les ennemis, et le miracle, donc, a véritablement eu lieu. Deuxième site qu'il nous faut envisager maintenant, c'est le site de Lachish. Lachish, au pied des montagnes, dans le sud de la montagne de Juda, où, finalement, on a du mal à trouver des traces de l'époque du bronze récent. Bon, nous savons par la Bible que Lachish est une des places fortes qui a été prise par Josué dans la conflagration qu'il a opposée à la coalition qui était menée justement par le roi de Jérusalem, et que, par conséquent, cette ville a été prise par les Israélites. Bon. On a du mal, je vous disais tout à l'heure, à trouver des traces de l'époque du bronze récent. Et on a trouvé finalement simplement des traces du bronze moyen de l'époque Hyksos, donc l'époque précédente, à l'extérieur du tel, qui est un tel relativement important, dans un espèce de fossé. Et là, justement, dans le remblai de ce fossé, on a trouvé des objets qui datent justement de l'époque du bronze récent, ce qui prouve bien que la ville était occupée à l'époque du bronze récent. À côté, justement, de ce fossé, on a découvert les restes d'un temple. Ou plus exactement, il y a trois temples qui sont empilés les uns au-dessus des autres. Ça veut dire trois temples qui se sont succédés chronologiquement. Le premier temple on l'a daté à peu près de 1480 à 1420. Le deuxième temple de 1420 à 1335. Et le temple supérieur, donc le premier, c'est celui qui est le plus bas, bien sûr, le temple supérieur, 1325 à 1260. Bien, ces temples, plus on avance dans le temps, plus ils sont sophistiqués, si je veux dire, plus ils sont perfectionnés. Il y a donc ici des traces du bronze récent, preuve que ces trois temples appartenaient justement bien à cette période. Maintenant, les plus anciens vestiges du bronze récent datent de 1550 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un peu moins d'un siècle avant la construction de ce temple. Mais le problème, c'est de savoir pourquoi a-t-on construit ce temple à cet endroit, c'est-à-dire un endroit quand même qui était assez mal placé pour un temple, notamment par le fait qu'il était hors fortification. Comment se fait-il que ce temple n'était pas fortifié ? Finalement, la réponse semble être celle-ci, c'est que ces temples, à cette époque-là en tout cas, ont bénéficié de la Pax Egyptiana, qui avait été le résultat de l'expédition de Troutmès III. Bon, c'est peut-être une explication qui est un peu courte, mais enfin, pour le moment, c'est la meilleure que l'on ait trouvée. Le temple supérieur, en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé aucun objet de l'époque du fer. Donc ici, on est bien encore à l'époque du bronze récent. Même si, dans un puits qui est situé à l'extrémité de ce temple, on a trouvé de la poterie bichrome, c'est-à-dire en principe de la poterie qui appartient à celle du fer. Maintenant, en dessous du troisième temple, ça veut dire du temple inférieur, on ne trouve absolument rien. On arrive au sol vierge, ce qui signifie qu'il n'y a pas de bâtiment plus ancien qui se trouve en dessous de ce temple. La ville, donc, est contemporaine, la ville du bronze récent est contemporaine de ces temples. Une ville a été construite, mais une ville qui semble avoir été assez mal fortifiée, parce que, justement, ses habitants comptaient, justement, sur le secours des Égyptiens, semble-t-il. Dans le temple médian, par conséquent, on a trouvé des scarabées égyptiens, mais on n'a pas réussi à les identifier avec précision, si bien que l'on n'a pas de datation précise. Il semblerait que ces scarabées appartiennent au pharaon Amenhotep III, donc époque pré-amarnienne, ce qui nous permet justement de le dater à peu près de cette période-là. Mais bon, il y a une imprécision quand même de 50 ans, et les spécialistes discutent quand même sur une période de temps qui est relativement importante. Bon, maintenant, un autre problème se pose. Le troisième temple, lui, porte des traces de destruction violente, un peu comme celle que l'on a vue justement à Hatzor. Mais le problème, c'est de savoir qui a été l'auteur de cette destruction. S'agit-il des Israélites ou bien s'agit-il aussi des Philistins? Finalement, ici, nous sommes dans une région où les deux protagonistes peuvent avoir été l'objet, peuvent avoir été les auteurs de cette destruction. Ce qui est très intéressant, c'est que ces temples et les objets cultuels que l'on trouve dans ces temples sont extrêmement différents de ceux que l'on trouve à Hatzor. Finalement, il semble qu'il n'y ait absolument aucun contact civilisationnel ou culturel entre les habitants de Lachish de l'époque du bronze récent et les habitants de Hatzor de la même époque. Comme si on avait affaire finalement à deux peuples entièrement différents, deux peuples qui avaient des religions différentes, qui adoraient des divinités différentes et qui finalement ne se mêlaient pas. C'est vrai aussi pour ce qui concerne les habitations privées. Les habitations privées de Hatzor et celles de Lachish sont extrêmement différentes. Encore une fois, nous avons ici affaire à des peuples différents qui ont des religions différentes. Ce qui va dans le sens de ce que la Bible nous enseigne de cette période-là, quand la Bible nous laisse entendre qu'il y avait différents peuples qui habitaient le pays de Canaan, des peuples qui étaient organisés en cité-État, hein, une ville, et comme l'a dit la Bible, et ses filles, c'est-à-dire finalement les villes qui en dépendaient. Hein. On traduit en français, je crois, second a traduit par les villes de son ressort. C'est pas très beau. C'est pas très beau comme traduction. Mais enfin bon, ça donne une idée un petit peu de ce que c'était, quoi. Et c'était donc le pays de Canaan était une mosaïque de peuplades différentes, de petites cités-États plus ou moins importantes, qui guerroyaient entre elles, qui parfois commerçaient. Mais bon, ici, entre Lachish et Hatzor, il y a quand même une distance relativement importante qui fait que, apparemment, ces deux peuples ne se mêlaient pas. Troisième site, Megiddo. Où là, alors, nous avons une stratigraphie tout à fait différente. Bon, le stratum, donc la couche 7A, est la couche du fer, la première couche du fer. La couche 7B est une couche qui correspond à la période du bronze récent 3, donc époque Ramsesside, 1330-1250. Le stratum 8 correspond au bronze récent 2, 1470-1370, et la couche 9, stratum 9, correspond au bronze récent 1, 1570-1550. Les couches donc 7A et 7B sont séparés par un hiatus important au point de vue civilisationnel. Ça veut dire que là, entre ces deux couches, intervient la révolution de l'âge du fer. Donc là, on a l'intervention de l'âge du fer. La différence passe entre ces deux couches-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on trouve, par exemple, à Lachish ou à Hatzor, où il y a vraiment une interruption nette, ça veut dire que tout ce qui est poterie, enfin, l'essentiel de ce qui est poterie, de ce qui est bâtiment, de ce qui est céramique, de ce qui est objet culturel, s'interrompt brusquement. Et la couche suivante, c'est-à-dire la couche du fer, la première couche du fer, voit apparaître des objets entièrement nouveaux. Donc là, on a affaire à une civilisation tout à fait nouvelle. Entre justement la couche 7B et la couche 7A à Megiddo, nous avons une continuité culturelle. C'est-à-dire, nous avons les mêmes types de poterie, nous avons le même type d'armes, nous avons le même type de bâtiments, nous avons le même type d'architecture, etc. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de rupture, mais il y a continuité, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Bon, l'explication est très simple. C'est que, contrairement aux deux sites que nous avons examinés, le site de Megiddo n'a pas été conquis par les Israélites. Megiddo est une ville, selon ce que nous lisons dans le livre de Josué, qui appartient au pays qui reste à conquérir. Ce pays que Josué reproche aux Israélites de ne pas avoir conquis, jusqu'à quand négligerez-vous de vous emparer du pays que je vous ai promis ? Par conséquent, c'est la même culture qui va se poursuivre à cette période-là, avec évidemment des éléments nouveaux, des éléments qui vont s'ajouter. Ça veut dire qu'il va y avoir continuité de ce qu'on trouve à l'âge du bronze, mais aussi apparition évidemment de des nouvelles données qui sont celles de l'âge nouveau qui vient ainsi de commencer. Même chose en ce qui concerne les bâtiments. Aussi bien les bâtiments cultuels que les bâtiments publics ou que les bâtiments privés, il y a continuité entre les deux époques. C'est la même culture donc qui se poursuit avec des éléments nouveaux, ainsi que nous l'avons vu. La couche 9, donc la couche qui correspond au bronze récent 1, est une couche où on trouve de la poterie bichrome. Là, nous avons à faire vraisemblablement à la couche qui est contemporaine de celle de Troutmès III. La destruction qui marque la fin de cette période est vraisemblablement l'objet de l'action de Troutmès III, telle qu'on le trouve décrit dans ses annales au moment de la fameuse bataille de Megiddo. Bataille de Megiddo, qui est une des plus anciens rapports de bataille qui nous soit parvenu, les plus anciens récits de bataille qui nous soit parvenu. Alors peut-être qu'on va évoquer très brièvement ce qu'a été cette célèbre bataille de Megiddo. C'est la première fois, si vous voulez, que Megiddo... Tiens, ça efface tout d'un coup. C'est la première fois que une bataille de Megiddo, je vous ai rappelé, c'est la première, mais ce ne sera pas la seule, malheureusement, pour ce site, qui, je vous rappelle, est situé donc à un endroit particulièrement stratégique, si on prend ici, grosso modo. Grosso modo, une carte du pays d'Israël. Hein, nous avons donc ici, ça a été fait en bleu quand même. Voilà, ici, le Jourdain. Ici la mer morte, grosso modo. Hein. Et donc, vous avez ici ce qu'on appelle la route de la mer. La route de la mer qui longe la côte. Voilà, jusqu'ici, et qui part ensuite en direction de la Phénicie. Bon. Or, ici, vous avez un massif montagneux, le massif du Carmel. Quel massif ? Alors, vous avez ici les collines, vous avez les montagnes de Haute-Galilée, et ici, vous avez la montagne de Samarie, qui commence, qui se prolonge ici par la montagne de Juda, puis les montagnes du Négev. Donc ici, la chaîne de montagnes centrale. Bon. Or, si vous voulez, entre le massif du Carmel et les montagnes de Samarie, vous avez ici une passe assez étroite, en tout cas qui était très étroite à cette période-là, et qui débouche ici dans la vallée d'Israël. Et là, vous avez donc deux possibilités. Ou vous rejoignez la route ici qui descend de la vallée du Jourdain et qui monte ici comme ça, ou alors carrément, vous passez ici au pied des montagnes et ici, vous passez le Jourdain au pont des Filles de Jacob, le Golan, Damas et la Mésopotamie. Donc, route essentielle. La grande route internationale de l'Antiquité, on appelle la Via Maris, la route de la mer, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui une route essentielle, parce que ça n'a pas changé, la topographie n'a pas changé. Bon. Alors, vous avez une troisième route possible aussi ici. C'est une route qui passe derrière ici la ville de Jenin actuelle qui s'appelait Dothan à l'époque et qui débouche ici donc dans la vallée du Jourdain grosso modo, hein, la route de Dothan. Bon, c'est là que Joseph a rencontré ses frères en particulier. Alors ici vous avez la place de Megiddo, ça veut dire à l'endroit où la route directe, la route qu'on appelle Wadi Ara, débouche dans la vallée d'Israël. C'est pourquoi Megiddo occupe une position stratégique essentielle, parce qu'elle contrôle cette route internationale qui va d'Égypte en Mésopotamie. Là, il vous suffit de bloquer cette passe et vous bloquez justement tout le trafic possible sur cette route. C'est pourquoi, justement, encore une fois, Megiddo, vous trouvez ça à l'époque de la bataille de Josias contre Nécho, vous trouvez ça jusqu'à l'époque moderne, la bataille de Lord Allenby quand il a défait les Turcs pour pouvoir justement ensuite continuer sa progression sur Damas. Il y a d'ailleurs un général Chauvel qui était à ses côtés, son adjoint. Tu le savais ? Mm-hmm. Ah, bravo. Alors ici, donc, nous sommes au 15e siècle, c'est le pharaon Toutmès III qui vient donc ici mater une révolte des cités-états de Galilée en particulier. Bon. Et les mutins se sont emparés, bien sûr, de Megiddo. Et voici maintenant ici notre pharaon qui est arrivé à cet endroit, à l'endroit où les trois rameaux de la route de la mer se séparent. Il va devoir choisir une route pour pouvoir attaquer. Bon. La route directe, évidemment, elle a le gros avantage d'être directe. Elle a un autre désavantage, c'est qu'elle est très étroite. Et dans certains endroits, deux chevaux à la sortie du défilé à cette époque-là, aujourd'hui, bien sûr, on a fait une route qui est beaucoup plus large, c'est toujours la même d'ailleurs, les deux chevaux ne peuvent pas passer de front. Alors vous comprenez, pour un ennemi qui contrôle la place de Megiddo, il suffit de poster ici des embuscades à la sortie du défilé, et puis de cueillir les cavaliers au fur et à mesure où ils sortent. Et bon, évidemment, leur faire un mauvais sort. Et là, le nombre de l'armée de Pharaon ne joue plus, parce qu'on les cueille les uns après les autres. Alors, le Pharaon rassemble son conseil de guerre, ses généraux, et dit quelle route nous allons prendre. Alors, tous ces généraux disent surtout pas la route centrale, évidemment. Alors, certains proposent de passer ici par la route ouest, ou l'autre de passer par la route de Dothan. Bon. Le pharaon écoute ses conseillers, et puis il fait ce que tout stratège avisé doit faire. Il se met dans la peau de l'ennemi. Et il se dit, si j'étais l'ennemi, qu'est-ce que je ferais? Comment je raisonnerais? Ça, c'est de la haute stratégie. Il dit, si j'étais l'ennemi, je me dirais, jamais le pharaon ne sera assez fou pour venir donner tête baissée dans ce piège. Donc on est à peu près sûr que le pharaon ne va pas passer par cette route. Et si j'étais l'ennemi, qu'est-ce que je ferais? Je diviserais mes troupes en deux. Je mettrais une partie de mes troupes au débouché ici de la route d'ouest et je mettrais une partie de mes troupes au débouché de l'autre route. Voilà ce que je ferais, si j'étais le général cananéen. Donc je tente le coup, je passe par la route centrale. Ces généraux disent, mais t'es fou, mon pauvre. Enfin, ils ne disent pas comme ça, parce qu'ils ne parlaient pas comme ça au pharaon. Mais c'est exactement ce que ça veut dire. Ah, vous avez peur? Eh bien, je passe le premier. On va demander à Chirac de faire ça quand il va à la tête de ses troupes. Les rois à cette époque-là, ils n'avaient pas froid aux yeux. Et voilà, donc, tout l'armée le suit, tremblant dans leurs pantalons. Parce que là, c'est le quitte ou double. Et, bien lui en prie, le pharaon avait vu juste. Il est le premier à déboucher à l'extrémité du Wadi Hara. Pas un chat. Pas un chat. Les Cananéens sont aux deux extrémités. Donc l'armée égyptienne a le temps de traverser, de se regrouper, avant que les Cananéens se soient rendus compte de ce qui se passe. Et c'est alors que là, l'armée est en ordre de bataille quand les Cananéens reviennent de leur surprise. La bataille tourne rapidement à l'avantage des Égyptiens qui ont l'avantage du nombre, qui ont l'avantage de l'armement, qui ont des meilleurs généraux, etc. Finalement, les Cananéens abandonnent tout, fuient comme des lapins et se réfugient à l'intérieur de Megiddo pour essayer justement de trouver l'abri de la place forte. Et malheureusement, les Égyptiens, au lieu de poursuivre les Cananéens, les empêcher de s'enfermer dans Megiddo, ils se précipitent sur le butin que les Cananéens ont abandonné, ce qui donne aux Cananéens le temps de se réfugier à l'intérieur de la forteresse de Megiddo. Et le pharaon Toutmès III est obligé de mettre le siège de la ville. Ce sont les traces de ce siège donc, qu'on trouve dans la troisième couche, dont nous avons parlé justement il y a un instant. Et On a trouvé aussi de la poterie de cette période et un temple qui est différent des autres temples qu'on a trouvés jusque maintenant. Il ressemble à celui de Hatzor, mais c'est la continuité des temples de l'époque précédente. Bon, ça nous montre que s'il n'y avait pas de relation entre Hatzor et Lachish, je dis bien, il y avait par contre des relations entre Hatzor et Megiddo. Ce qui est vraisemblable, dans la mesure où, d'abord, géographiquement, ces deux villes étaient moins éloignées que ne l'étaient Hatzor et Lachish, et deuxièmement, parce que ces deux villes occupaient aussi des fonctions et des places stratégiques extrêmement importantes. Bon. On a trouvé également aussi, alors, à côté de la porte, voici, c'est le rempart cananéen. Vous voyez quand même, ce gribouillis, là, c'est embêtant. Il faudrait qu'on trouve un procédé.
Je pense que c'est au bout d'un temps, il va sécher, ouais, c'est une histoire de séchage. Mais peut-être que la brosse aussi n'est pas en bon état. Enfin, je change.
Oui. C'est embêtant, on ne voit pas très bien, là.
Je change la brosse.
Bon. Il y a, vous vous souvenez, ici, une porte à trois étranglements. On a vu ça la dernière fois, typiquement Hyksos. Voilà. Pour permettre la pénétration des chars, et pour permettre de les bloquer, si jamais ils ont des intentions hostiles, aux trois étranglements. Donc ici, entre, si vous voulez, les deux piliers, il y a exactement la largeur pour que le char passe au centimètre près, si bien qu'il ne peut pas, évidemment, rouler vite. Bon. Ça correspond à la création du char. Alors ici, on a une espèce de structure assez bizarre, qui ressemble un petit peu aussi, qui est construite à peu près de la même manière. Et ici, ensuite, on a ici un autre temple. Bon. Dans l'époque du bronze récent 3, donc époque Ramsesside, et s'agit-il d'un temple ou d'un édifice cultuel? C'est peu probable. Finalement, on a pensé que c'était beaucoup plus le palais du gouverneur militaire. De l'époque, justement, de Ramsès II, et qui était donc, en principe, le gérant de la ville de Megiddo pour le compte du pharaon. Bon, on trouve dans ce palais du gouverneur de la poterie mycénienne 3B, ce qui nous donne la date donc d'environ 1230, donc l'époque Ramsesside. Donc, si vous voulez, le palais du gouverneur militaire était près de la porte, ce qui est normal, dans la mesure où, justement, la porte était l'endroit le plus menacé de la ville, celui qu'il fallait défendre en priorité. Donc, le quartier général du gouverneur militaire était tout près, et ça lui permettait de diriger une éventuelle bataille. Bon, c'est un palais, finalement, relativement modeste. Et dans le temple qui se trouve, alors, de l'autre côté, ici, on a trouvé, alors, des piliers d'encens qui servaient justement pour brûler l'encens dans le temple, et un autel des parfums, un autel sur lequel les parfums étaient brûlés. Et c'est aussi dans ce temple-là qu'on a trouvé les fameux ivoires de Megiddo dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des espèces de, comment dirais-je, couteaux d'ivoire qui ont un usage décoratif, qui ne sont pas du tout fonctionnels, hein, mais qui sont superbement, justement, sculptés et décorés. Et notamment, on peut voir sur un de ces ivoires le roi de Megiddo, recevant l'hommage de ses vassaux, de ses sujets, c'est pas exactement. Et notamment, on peut voir un joueur de harpe qui se présente devant le roi debout, tandis qu'un second personnage qui tient une lance et un bouclier se trouve derrière lui. Maintenant, ce qui est très intéressant de noter, c'est le trône du roi. Sur le trône du roi, justement, il y a un sphinx ailé qui est représenté. C'est justement cette fameuse représentation du sphinx dont on a parlé tout à l'heure, qu'on trouve à cet endroit-là. Maintenant, il y a aussi d'autres ivoires qu'on trouve aussi dans cet endroit-là, et notamment une boîte d'ivoire qui devait être une boîte à bijoux, certainement d'une élégante de l'époque, sur laquelle on trouve aussi, d'ailleurs, sur les quatre les quatre faces de la boîte, on trouve des un chérubin ailé aussi, un chérubin, enfin un sphinx ailé, un chérubin. C'est certainement que les chérubins israélites, tels qu'ils sont décrits dans le livre d'Ézéchiel en particulier, ressemblaient comme un frère à ces chérubins qui sont représentés là. Là, ici, nous sommes dans une civilisation phénicienne, tyrienne et donc cananéenne, puisque c'est finalement la même civilisation. Et on sait justement que le temple de Jérusalem sera construit par un tyrien, par l'influence justement des tyriens. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on trouve d'autres temples semblables, comme par exemple à Tel Beth Mirsim et à Bet-Shan. À Beth Mirsim, on trouve une stèle qui ressemble à celle de Hatzor, dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'elle avait ses deux mains avec le croissant de lune. Mais là, au lieu de trouver ce motif, on trouve un autre motif, celui de la déesse au serpent. La déesse au serpent, c'est un motif qui est très répandu aussi dans l'Orient ancien. Soit la déesse qui brandit deux serpents dans ses mains, soit, comme c'est le cas ici, le serpent qui est entouré autour du corps de la déesse. Le serpent était une divinité qui était adorée par les peuples anciens. Il était le symbole de l'immortalité, de la vie éternelle. D'ailleurs, on le retrouve ça dans le caducée aussi des médecins. Pourquoi ? Parce que le serpent change de peau. Et par conséquent, les anciens pensaient que chaque fois que le serpent changeait de peau, il mutait. Et il renaissait comme une nouvelle créature. C'est donc, si vous voulez, des naissances multiples. Et que par conséquent, le serpent était un animal qui était doué de l'immortalité par ce moyen, justement, de changer de peau. Bon, en fait, aujourd'hui, on sait qu'il n'en est rien. Mais enfin, à cette époque-là, c'est ce qu'on pensait. Et donc, le serpent était adoré comme une divinité, parfois même une divinité malfaisante, dont on essayait justement de se concilier les bienfaits. Et par exemple, l'idée du serpent qui enlève à l'homme la vie éternelle, on la retrouve aussi dans l'épopée de Gilgamesh. En Babylonie, lorsque Gilgamesh reçoit l'ordre d'Utnapishtim, le Noé babylonien, d'aller plonger dans le golfe persique pour y cueillir la plante de la vie, et qui se trouve là, justement, protégé par un serpent. Le serpent empêche, finalement, Gilgamesh parvient à tromper la vigilance du serpent, il cueille la plante de vie, mais juste au moment où il allait la ramener à terre, le serpent se ressaisit et la lui arrache, tant et si bien que Gilgamesh n'héritera pas de la vie éternelle. La déesse au serpent est donc une déesse qui est associée, à la fois c'est une déesse ambivalente. Il y a aussi, si vous voulez, la femme qui est celle par laquelle se transmet la vie, donc qui est en relation avec le serpent, symbole de la vie éternelle. On trouve ça aussi un peu dans la Bible, n'est-ce pas, le fameux serment du Seigneur à Ève, le serpent, donc je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance, tu lui blesseras le talon et elle t'écrasera la tête. Bon, ça veut dire que finalement, la femme par laquelle la mort est entrée sera celle aussi par laquelle la vie éternelle, qui a été arrachée à l'homme par le serpent, pas de la même manière que dans l'épopée de Gilgamesh, mais par la séduction du serpent, un jour, par la femme viendra la vie éternelle, par sa descendance. Le fils promis, le fils prédestiné, qui, lui, justement, mettra fin définitivement au règne du serpent. Bon, le culte du serpent est un des cultes les plus diaboliques qui soit. On le retrouve encore, évidemment, dans les tribus africaines ou primitives, associées avec toutes sortes de rites démoniaques. C'était un culte très répandu, notamment aussi à Carthage. On le retrouve à Carthage. Et là, bien sûr, on est dans une civilisation de type cananéen, telle qu'on la retrouve à Carthage, dans une situation qui est un petit peu plus évoluée. Ce qui est très intéressant aussi, c'est les fortifications de cette période. Là, on voit apparaître un nouveau type de fortification qu'on appelle la fortification de type balcon. Cette fortification, elle est représentée sur les bas-reliefs égyptiens de l'époque, par exemple justement sur ce qui touche à l'expédition de Troutmès III en particulier. C'est Troutmès III qui l'a le mieux représenté. La fortification de type balcon est une fortification qui se présente à peu près comme ça. Vous avez donc ici la muraille proprement dite, perspective, avec des créneaux qui sont ronds. N'oublions pas qu'à l'époque, les créneaux sont de ce type-là, ne sont pas carrés. Hein. Et là, vous avez alors une structure qui avance à peu près comme ça. Voilà. Comme ça. Avec les balustrades. Finalement, on retrouve aussi des créneaux. Hein. C'est la même chose. Voilà. Voilà. Comme ça. Bon. Et puis là, vous avez à l'intérieur de cette structure des ouvertures. Bon. Donc, quel est l'avantage de ce type de fortification? Ça veut dire que si l'ennemi arrive en bas, là, hein, et commence à battre la muraille, bon, il est surplombé par ce balcon. Donc à ce moment-là, pendant qu'il est en train de s'activer, on lui balance ici sur la tête, à partir de ses ouvertures. Alors, tout un ensemble de choses pour lui souhaiter une joyeuse bienvenue. Des pierres, de l'huile bouillante, des flèches, enfin tout ce qu'il faut pour le refroidir un peu, quoi, hein, pour refroidir ses ardeurs. Donc, vous avez ça, si vous voulez, aussi. Ce type-là, il a été en vigueur pendant l'époque des juges, aussi. Vous trouvez, par exemple, vous savez, cette histoire où Avimelech, fils de Gédéon, se fait fracasser la tête par une femme qui lui balance une meule de moulin sur la tête. Hein, alors qu'il s'est approché avec un fagot au pied de la muraille pour y mettre le feu. Et donc, il a en plus de ça la honte de mourir des mains d'une femme, ce qui, évidemment, pour un guerrier de l'époque, est quelque chose de terrible. Plus tard, David fera allusion à cette affaire, justement au moment de l'épisode d'Uri le Héthien. Vous vous souvenez que lorsqu'on vient lui annoncer que le peuple d'Israël qui assiège Rabbath-Ammon vient de subir un revers, David se met en colère et il dit à Yoav, mais pourquoi vous êtes approché de la muraille? Vous savez très bien que du haut de la muraille, on balance des choses sur les guerriers. C'est comme ça qu'est mort Avimelech quand il a reçu une meule de moulin sur la tête. Et Yoav lui dit, oui, mais ton serviteur Uri est mort aussi. Ah bon, à ce moment-là, bon, bah, te tracasse pas. Bon. Mais la première réaction de David, c'est ça. Pourquoi? Parce que justement, c'était encore ce type de fortification qui était en vigueur à cette période-là, justement, dans la ville de Rabbath-Ammon. Bon, maintenant, autre point intéressant, les armes de l'époque. Les armes évoluent dans deux domaines, trois domaines. Premièrement, les armes personnelles, la hache. On a apparition d'un nouveau type de hache, de bronze, bien sûr, toujours, qui combine à la fois, si vous voulez, la propriété de couper et la propriété de percer. Alors, ça vous donne à peu près ceci. Voilà. Vous avez le tranchant ici, et vous avez ici l'endroit où on l'emmanche sur un bout de bois. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de l'épée, on a l'apparition de deux types nouveaux d'épées. Un système de dague. La dague, c'est une épée à deux tranchants. Bon, c'est plus une dague qu'une épée d'ailleurs. Bon, on en trouve différents modèles. Certains sont assez, comment dirais-je, artistiques. Et puis surtout, alors on a un type d'épée tout à fait différent et qui ne va être utilisé qu'à cette période-là. Cette épée, elle se présente à peu près comme ça. Voilà, ici on en mange. Cet endroit-là étant le tranchant. Bon. D'où l'expression biblique « passer au tranchant de l'épée ». Cette épée était en service à l'époque de la conquête et à l'époque des juges, et au début de la monarchie unie. Hein. Passer au tranchant de l'épée. Et l'on comprend justement ce qui s'est passé pour le petit dieu du temple de Hatsor dont nous parlions tout à l'heure. Il a reçu sur la tête un coup d'épée de ce type-là, qui lui a tranché la tête. Bien qu'elle ait été de pierre, il devait avoir la tête dure, mais quand même, hein, il n'a pas fait un pli. La puissance de cette épée était telle qu'elle lui a fait envoler la tête mieux qu'une guillotine. C'est ce type d'épée. Passer au fil de l'épée, expression que vous trouvez souvent dans la Bible, que l'on comprend quand on connaît justement le type d'épée qui était utilisé à cette période. Dernière évolution de l'armement de cette période, mais qui n'est pas un des moindres, last but not least, comme on dit en anglais, c'est le char de combat. Le char de combat qui est apparu, donc nous l'avons vu à l'époque précédente, avec les Hyksos, et qui va être ensuite adopté par les Égyptiens, il en est abondamment question dans le livre de l'Exode, et qui va être ensuite développé, sophistiqué, amélioré par les Égyptiens. Le char de combat, c'est quoi finalement? C'est une plateforme. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce que l'armée moderne appellerait un système d'armes. Ça veut dire le char de combat en lui-même n'a aucune valeur s'il n'est pas relégué par les armes à partir desquelles on les met en œuvre depuis justement cette plateforme mobile. Et les armes qui sont utilisées pour le char sont de deux types, enfin même de trois types si on veut, enfin essentiellement de deux types. Premièrement, les armes de jet telles que le javelot, lance et choses semblables, et surtout ce qu'on appelle l'arc composé. L'arc composé, c'est un arc que les Égyptiens ont inventé et qui est un arc qui est constitué de tout un mélange, si vous voulez, de lamelles d'os qui macèrent dans une espèce de colle spéciale les ingénieurs égyptiens avaient le secret. Et au bout d'une préparation qui dure longtemps, qui dure plusieurs semaines, si vous voulez, ça vous donne à peu près quelque chose comme ça. Vous avez une espèce de colimaçon. Voilà. Bon. Alors, si vous voulez, ce colimaçon, qui est donc extrêmement fort par justement la colle qui relie tous ces endroits entre eux, il faut le détordre dans l'autre sens. Donc, c'est un effort considérable. Et alors, si vous voulez, quand il est bandé, l'arc composé a à peu près cette forme. Voilà. Vous comprenez, ici, on l'a tordu dans le sens inverse de la torsion initiale. Ce qui fait, si vous voulez, que lorsque l'arc est bandé, ou plutôt lorsqu'il est, il est rattaché par la corde, et les bas-reliefs égyptiens ont très très bien représenté justement ces colimaçons qu'il y a aux deux extrémités de l'arc, et on sait que justement qu'on a affaire à un arc composé à ce moment-là. Alors vous comprenez bien que, comme finalement la torsion va dans le sens inverse, quand on bande l'arc, la force de la flèche va être décuplée justement par ce système. Donc d'abord, c'est un arc qui est très difficile à bander, il faut une grande force pour pouvoir le faire. Et deuxièmement, la portée de l'arc est extrêmement importante par rapport justement à celle d'un arc normal. Par exemple, le Ramsès II, dans le fameux relief de la bataille de Kadesh, est représenté, là, on le voit là très bien, avec justement l'arc composé de ce type-là. Bon. Maintenant, cet arc-là, il est mis en œuvre depuis le char de combat. Char de combat qui est tiré par deux chevaux. Un troisième cheval peut courir de manière libre, si vous voulez, à côté des deux autres chevaux, au cas où un cheval serait blessé ou serait fatigué, il faudrait le remplacer. Mais logiquement, c'est deux chevaux. L'équipage du char est de deux hommes, il est armé, donc un conducteur et un tireur, qui fait en même temps office de chef de char. Bon, le char a des roues donc, qui sont à quatre ou six rayons. Les chars égyptiens de cette période-là. C'est quand même un char assez léger. On en a trouvé qui sont pratiquement entiers dans les tombeaux. Je pense que même celui de Ramsès II, on l'a dû retrouver à peu près intact dans sa tombe. Et il est exposé au musée du Caire. Alors, le char combine trois choses. Premièrement, la mobilité, la rapidité et la puissance de tir. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en armement un système d'armes. Quelle est justement la doctrine d'emploi du char de combat à cette période-là? Bon, il y a deux manières d'employer le char de combat, soit d'une manière offensive, soit d'une manière défensive. En position défensive, les unités de char qui représentent l'élite de l'armée, bien sûr, hein, c'est très cher pour avoir un char de combat à cette période-là. Les unités de char sont placées à l'arrière de l'armée, et si les lignes de fantassins sont enfoncées, alors les chars vont lancer une contre-attaque rapide à l'endroit menacé. Là, donc, le gros avantage du char, c'est que donc il est mobile, il peut se déplacer très rapidement d'un endroit à l'autre du front, là où justement les menaces vont apparaître. Hein. Il est rapide, donc ça veut dire qu'il peut rejoindre rapidement le théâtre de l'opération. Et troisièmement, il a une grande puissance de feu, hein, grâce à l'arc composé. Il peut tirer alors que justement les unités de Charis sont hors de portée de l'armée ennemie. Lui, il a une plus grande portée grâce à l'arc composé. Donc, si vous voulez, il est encore hors de portée, tandis qu'il peut déjà commettre, plutôt infliger à l'ennemi, des dommages considérables. Donc ça, c'est en position défensive. En position offensive, bien le char serait à peu près utilisé comme est aujourd'hui le tank, le char moderne, la version moderne du char. Ça veut dire, en unité massive groupée, ce qui a été le cas, par exemple, sur les bords de la mer Rouge, hein, selon le récit de l'Exode, et finalement, dans des charges rapides, dans des charges qui, alors, dès que les unités de char sont à portée de tir de la troupe composée, envoient une volée de flèches sur les fantassins ennemis, hein, qui font pleuvoir les flèches comme une pluie de rue, quoi. Hein. Et puis, lorsque le char est à moyenne portée, alors il a des espèces de sacs de chaque côté, là, c'est-à-dire les flancs du char, des sacs dans lesquels il y a des javelots et des lances. Là, donc, si vous voulez, on va utiliser cette fois-ci le javelot, les armes de jet à moyenne portée. Et enfin, n'est-ce pas, grâce à des épées de type de celles qu'on a vues tout à l'heure, épées courbées, là, comme ça, hein, qui vont être utilisées comme les unités de char, de cavalerie montée, hein, ça veut dire en sabrant le fantassin, quoi. Là, donc, si vous voulez, là, les différentes manières d'utiliser le char de combat. Bon, il est évident que seules les armées sophistiquées peuvent envoyer le char de combat, les Égyptiens. Les Cananéens également ont des chars de combat, ça nous le lisons dans le livre de Josué et des Juges, et notamment toutes les plaines resteront aux mains des Cananéens, la région de Megiddo notamment, parce que justement les Cananéens avaient des chars et que les Israélites n'avaient pas de chars. Par contre, dans les montagnes, où sont les Israélites, bien entendu, le char ne peut pas manœuvrer. Le char ne peut manœuvrer que dans des endroits ouverts, dans des endroits plats, dans les plaines. C'est pourquoi, justement, les Israélites auront le plus grand mal à descendre dans les plaines. Megiddo était une place de char, Hatzor était une place de char aussi, Lachish était une place de char, etc. Bon, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les Israélites n'utiliseront le char de combat qu'à l'époque de Salomon. Même David, n'est-ce pas, ne prendra les chars ennemis, mais les détruira, sans les utiliser pour lui-même. Voilà, si vous voulez, pour ce qu'on peut dire de l'époque du bronze récent.